Ça va être des bons blocs pour les Poolers. Quels joueurs de hockey vont connaître une belle progression cette année? Quels joueurs vont avoir une éclosion et qui vont avoir une hausse de production significative? C'est le mandat que j'ai confié à Martin Thériault. Salut, Marty!
Hey, salut, Désolé, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va super bien, très content. Très
right. Content d'être là. Pablo, je suis content parce qu'aujourd'hui, je t'ai pour une demi-heure. Tu dis, là, Colin, il me reste deux shows. Je peux-tu faire de la radio avec mon chum? Fait que j'ai dit, Marty, ça te dérangerait-tu de me faire deux blocs? Pas de problème. Fait qu'on est parti pour une belle demi-heure ensemble, mon ami. Écoute, je t'ai demandé, Marty, nomme-moi des joueurs qui vont avoir une belle hausse dans leur production offensive cette année. Je t'ai demandé de m'en sortir cinq. Vas-y avec le numéro un.
Ouais, donc le premier, un gars qui est quand même assez évident, je suis allé avec Leo Carlson, des Ducks d'Anaheim. Leo Carlson, ce qu'il faut comprendre, on dirait que même avant qu'il soit repêché, je m'attendais un peu à ce que ça se passe comme ça pour Leo Carlson. Deux saisons plus ordinaires, étant donné que bon, c'est quand même un Suédois qui s'amenait en Amérique du Nord, on sait là un petit peu, c'est quand même quelqu'un qui a un tempérament un petit peu timide, quelqu'un qui a des problèmes de, qui avait des problèmes de bégaiement, ça a déjà été un petit peu rapporté tout ça, mais je m'étais toujours dit Leo Carlson, probablement que c'est à sa troisième année que ça va se passer. Et là, on va être là dans le cas de Leo Carlson. Ça s'est très bien terminé la saison dernière. Dans ses 31 derniers matchs, il a obtenu 29 points. Au championnat mondial de hockey, il est parti aider la Suède après sa saison, a obtenu 10 points en 10 matchs. Et je regarde qu'est-ce qui se passe du côté de Leo Carlson. Premièrement, je pense que juste, il va avoir été capable de prendre de la maturité, de la confiance, va être en mesure de pivoter le premier trio. C'est clairement le plus gros joueur que tu peux avoir du côté des Ducks. On compte sur lui pour être en mesure de faire un bond en avant. Et je regarde qu'est-ce qu'on a un peu autour, tu sais, les ailiers potentiels qui pourraient jouer avec lui. Il a terminé la saison avec Cutter Gauthier, qui lui également a bien terminé la saison, qui est un excellent marqueur, qui est capable d'aider un Carlson à produire. Il joue avec Alex Killorn également. Et si on décide de jouer un peu avec les trios du côté de Joel Quenneville, un entraîneur quand même offensif, qui s'amène avec les Ducks, ben là, t'as Ryan Strome, t'as Chris Ryder, t'as Troy Terry, j'ai dit Strome, là, mais je m'excuse, je veux dire Frank Matrano. Tu sais, t'as plusieurs ailiers qui sont capables d'aider à faire produire Carlson, donc Carlson a obtenu 45 points en 76 matchs la saison dernière. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait se passer. Je m'attends à un minimum de 65 points et peut-être même plus. Je dirais dire même 65 points, c'est conservateur, là. Je pourrais même dire peut-être un 70-75. Je pense que c'est cette année qu'on va voir que Leo Carlson, les Ducks ont bien fait de le repêcher deuxième au total.
Oui, puis effectivement, puis les Ducks, clairement, ils ont une volonté de... On est amené de rater les séries là, avec Quenneville et compagnie, puis on est allé chercher Kreider, on est allé chercher des joueurs justement pour s'aider. Fait que c'est là où est-ce que ça va être intéressant de voir si Carlson pourrait pas être le fer de lance de cette équipe-là. D'ailleurs, parlant de Kreider, je vais prendre le temps de le souligner. L'exercice qu'on fait ce matin, c'est vraiment des joueurs qui n'ont pas nécessairement connu une grosse production par le passé qui ont ralenti entre-temps. Comme Kreider est un bon exemple. T'sais, je le sais qu'il a déjà fait 75 points puis que l'année passée, il en a juste fait 30. Mais même si Marty s'attend à une grosse saison, c'est pas exactement ces joueurs-là qu'on vise. C'est vraiment les plus jeunes qui pourraient éclore pour la première fois dans la Ligue nationale de hockey. Vas-y avec un deuxième joueur, Marty.
Ouais, petite précision sur ce que tu viens de mentionner, c'est pourquoi notamment j'ai pas un Noah Dobson. Je pense que Noah Dobson va être excellent, va obtenir d'excellentes statistiques, mais il a déjà été bon dans le passé. Donc c'est pourquoi j'ai pas Noah Dobson.
Exact.
Ouais. Pour mon deuxième joueur, donc je suis allé du côté des Jets de Winnipeg, j'ai choisi Cole Perfetti, qui progresse d'année en année. Ça fait déjà trois saisons qu'il y a une progression. L'an dernier, il a eu 50 points. Ça a été sa meilleure saison, justement. Et je pense que dans le cas de Perfetti, donc, a été très bon, mais en même temps, je sais pas si tu te souviens, l'an dernier, il avait signé son contrat le 23 septembre, donc durant le camp d'entraînement. On sait à quel point, parfois, pour les joueurs, c'est pas nécessairement évident. Tu commences un peu en retard, t'as un peu de stress, justement, par rapport à la négociation de contrat, ce que tu vas être en mesure de t'amener au camp d'entraînement et tout ça. Et je me souviens, un gars comme Perfetti était quand même arrivé en début de saison, avait quand même obtenu d'excellents premiers matchs. Donc ça, déjà de ce côté-là, cette année, Perfetti a son contrat, il n'y a pas de stress là-dessus, il est capable de bien se préparer pour sa saison. Et on l'a vu du côté des Jets, Nicolas Ehlers a quitté, il est maintenant du côté des Hurricanes de la Caroline. Ça laisse un trou. Et on sait, souvent on a tendance à placer les Jets de Winnipeg peut-être un petit peu plus bas, à se dire bon ben écoute, c'est leurs belles années de gloire sont terminées, et on trouve toujours une façon de surprendre. Et là tu regardes ça, t'as Kyle Connor, t'as Mark Scheifele. Là, est-ce qu'on peut placer Gabriel Vilardi? C'est sûr que tu peux avoir lui. Si c'est pas Vilardi, ben c'est là que c'est intéressant. C'est là que Perfetti a une chance légitime. En fait, c'est assurément un joueur de top 6. va être en mesure de produire avec d'excellents compagnons de trio. Et s'il n'est pas sur le premier trio, à la limite, et là, c'est là que ça va dépendre beaucoup de Jonathan Toews, par contre. Est-ce que Jonathan Toews a vraiment suffisamment retrouvé la forme? Et est-ce qu'il a encore la forme des beaux jours? C'est quand même quelqu'un qui ne rajeunit pas, Jonathan Toews. Mais tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'un gars comme Cole Perfetti, étant donné le départ de Ehlers, je pense que c'est quelqu'un qui va en profiter. C'est quelqu'un qui est un bon passeur, qui est un bon tireur, qui est très intelligent. J'ai toujours été un grand partisan de Cole Perfetti. Donc, tu sais, 50 points, moi, je pense qu'il est peut-être capable d'aller chercher un 65-70, encore une fois, là, d'avoir une très, très belle progression par le fait que la situation est belle pour lui à Winnipeg.
Oui, effectivement, elle est bien entourée, puis en plus, il y aura une place plus importante au sein de l'organigramme des Jets de Winnipeg. Il en reste trois. On va aller du côté de Calgary, Marty.
Ouais, Calgary avec Matthew Coronato, qui a eu une bonne fin de saison l'an dernier, a obtenu 15 points ses 18 derniers matchs. Ça a donné une production de 47 points en 77 matchs. Et je regarde la situation du côté des Flames de Calgary. Tu sais, supposons que je regarde simplement Coronato. Habituellement, ce qui va t'aider à produire, c'est si tu te retrouves au sein du premier trio. Tu sais, c'est pas un gros mandat qu'on lui demande de devancer, par exemple, un Connor Zary à l'aile droite. Là, s'il se retrouve avec sur le premier trio, ben, c'est Nazem Kadri. C'est Jonathan Huberdeau. Huberdeau qui a quand même rebondi un peu l'an dernier. Nazem Kadri, ça fait quand même trois bonnes saisons qu'il colle. Là, évidemment, il y a les rumeurs de transactions, mais on verra bien, tu sais. Et tu sais, c'est ça. Et c'est quand même logique de le penser. Il a quand même joué un petit peu avec Jonathan Huberdeau et Morgan Frost dans la fin de la campagne. Et Coronato, c'est un gars qui est super intelligent. Moi, je le compare parfois à Zach Parise dans le sens où il est très bon autour du filet. Il est capable d'aller devant le gardien de but. Il a de bonnes mains là-dessus. Moi, je pense que Coronato a obtenu 47 points. Il est capable d'amener son jeu vraiment à un autre niveau. Et chez les Flames, c'est pas comme s'il y avait de grandes vedettes offensives. J'ai l'impression que ça va passer un peu par Coronato, que Ryan Huska va l'aimer beaucoup. Là. 47 l'an dernier, moi j'ai l'impression qu'un gars comme Coronato, là, capable d'aller chercher un bon 70 points, et peut-être même plus, parce que je pense qu'elle va vraiment passer par lui. C'est peut-être son année, justement.
Ouais, puis tu sais, l'autre joueur offensif qui pousse chez les Flames, il est en défense avec Zane Parikh, mais à l'attaque, vraiment, ça va être du côté de Coronato. Puis je me souviens, lorsque la transaction de Toffoli était survenue chez le Canadien, on avait su la transaction, mais on ne savait pas encore le retour, et on en avait parlé ensemble du fait que Coronato jouait avec Sean Farrell plus jeune dans les rangs juniors, puis qu'on espérait que le Canadien soit en mesure d'aller chercher Matthew Coronato dans cette transaction-là. Finalement, ça avait été Emil Heinemann, qui s'était pas avéré un mauvais choix et qui nous a permis notamment de mettre la main sur Noah Dobson au cours des derniers jours. Marty, on va aller du côté de Jiří Kulik, un joueur que j'aime beaucoup, que le Canadien aurait pu repêcher, mais bon, on ne fera pas le passer, là, mais qui va avoir un rôle important cette année avec les Sabres de Buffalo.
On va te garder ton sourire quand même un petit peu ce matin, désolé. On parlera pas trop de la situation avec Philippe Méchard. Mais dans le cas de Jiří Kulik, je pense que c'est assez évident. C'est quelqu'un qui a terminé la saison au sein du premier trio chez les Sabres de Buffalo. On a vu ce qu'il a offert en série contre le Rocket de Laval. Évidemment, les Americans de Rochester ont perdu. Mais Kulik avait été extrêmement dominant. Il a montré son tir. Il a montré que là, à un moment donné, la Ligue américaine, c'était plus fait pour lui. Il était prêt pour la LNH. Il a quand même joué 62 matchs la saison dernière, obtenu 24 points. Et c'est parce qu'à un moment donné, tu regardes la situation des Sabres. Avec la transaction de J.J. Peterka, ça fait un trou sur le premier trio. Bon, déjà, Kulik a joué des matchs. Là, c'est pas garanti qu'il va être là. Mais je regarde les options qui se présentent aux Sabres. Tu sais, Josh Norris, qui pourrait être le premier joueur de centre, il passe son temps à être blessé, il passe son temps à être à l'infirmerie. Est-ce que c'est une vraie valeur sûre au centre? Je pense pas. Est-ce que tu veux Ryan McLeod comme premier joueur de centre? Je comprends que c'est croche à Buffalo, mais à un moment donné, il y a des limites. Donc, c'est là que je pense qu'un Kulik devient intéressant. Et si jamais tu ne le places pas au centre, à l'aile, il n'y a pas une tonne d'options non plus. Il y a peut-être Zach Benson, que j'aurais pu glisser dans cette chronique-là, mais que je n'ai pas fait, justement, parce qu'on doit faire des choix. Mais c'est pas une garantie non plus. C'est un joueur de petite taille. C'est quelqu'un qui a eu de la difficulté à s'établir dans la LNH pour l'instant. Jason Zucker sur un premier trio, j'y crois pas. Jack Quinn, il y a des problèmes de santé également. Donc, c'est là que je me retourne vers un Kulik pour jouer avec un Tage Thompson. Thompson qui a eu une bonne fin de saison l'an dernier, qui a besoin de quelqu'un pour être en mesure de l'alimenter ou de se faire alimenter. Et c'est là que Kulik, que ce soit par le poste de joueur de centre ou à l'aile, Il a le tir. C'est quelqu'un qui a bien progressé défensivement, donc capable de prendre pas mal plus de missions et d'impressionner un Lindy Ruff à ce niveau-là. Donc, j'ai vraiment l'impression que Kulik est l'option pour dire... tu sais, à un moment donné, Thompson, oui, est un peu seul, mais... C'est sûr que quelqu'un va en bénéficier. Je pense que ça va être cool, là.
Ouais, puis bon, tu as décidé de garder la cerise pour la fin pour redonner le sourire à tout le monde.
Ouais, ben je me suis gardé un petit joueur des Canadiens de Montréal. C'est sûr que quelqu'un va quand même être satisfaisant là-dedans. Je suis allé avec Zachary Bolduc. T'sais, et Bolduc, bon, c'est pas sûr qu'il va jouer dans le top 6. Il y a quand même Patrick Laine qui est là. T'as quand même plusieurs options et tout ça. Mais ce qui est intéressant de Zachary Bolduc, je l'ai déjà mentionné souvent, c'est que je pense que ça va être le couteau suisse. T'sais, peu importe, on souhaite pas de blessure majeure, là. Mais supposons qu'un Cole Caulfield se blesse et que t'as besoin d'une option pour aller remplacer sur le premier trio. Je pense que Bolduc, Martin Saint-Louis va l'aimer beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est très complet. C'est quelqu'un qui est capable d'offrir un peu de tout. Et bon, Bolduc, il y a cet aspect-là, donc va se retrouver au sein d'un top 6. Je pense qu'il va être, il va se plaire à Montréal. Je pense que d'avoir les projecteurs, d'être pour l'équipe de son enfance, ça va lui faire du bien, il va en donner peut-être un peu plus. Et je regarde la saison dernière, Zachary Bolduc a marqué 19 buts, 36 points, 72 matchs. Par contre, il a marqué 13 buts après la pause de confrontation des quatre nations. Ça a été la meilleure recrue. Et je regardais un peu les joueurs autour de lui, là, des eaux. Dylan Strome et Austin Matthews ont marqué autant de buts que Zachary Bolduc après la pause des quatre nations. Nikita Kucherov a marqué 12 buts. Donc, je sais pas si tu comprends bien. Non, là, Zachary comprends. Bolduc a plus produit que certains des meilleurs joueurs de la LNH. Je dis pas que ça va être ça. Sauf qu'à quelque part, Zachary Bolduc est en confiance et c'est quelqu'un qui est complet, qui est bon défensivement, qui a un bon tir, qui est sous-estimé au niveau des talents de fabricant de jeu parce qu'on le voit tellement souvent marqué, mais c'est quand même quelqu'un de très complet dans ses aspects. Donc, si tu le places avec un Ivan Demidov qui est capable de sortir toutes sortes de jeux absolument sensationnels, Bolduc a obtenu 36 points. Moi, je pense qu'il est capable d'aller chercher un 50 ou 55. On verra bien, là. Mais moi, je m'attends à une très grosse production. Et parce que c'est un joueur qui est en ascension, c'est un jeune joueur. Et par le fait que je pense qu'il va se plaire à Montréal.
Ouais, j'ai hâte de voir, honnêtement, s'il va commencer sur le top 6. Sinon, ben, c'est sûr que du moment qu'un joueur se blesse, il va être une option intéressante. On verra quelle sera la composition des trios de Martin Saint-Louis dans à peu près 2 mois, dans un peu moins que 2 mois, lorsque le camp d'entraînement va s'amorcer. Excellent, Marty. Merci beaucoup. Reste là. On revient à la pause, après la pause, avec les joueurs qui vont connaître une régression l'année prochaine. Ceux qu'on pourrait s'attendre à de grandes choses, qui, selon Marty, ça va être plus difficile. On fait ça dans le club. Ouais, vous êtes dans le club du matin avec Anthony Desauniers et Martin Thériault. Marty, avant la pause, tu nous as dressé les 5 joueurs qui, selon toi, vont connaître une belle éclosion cette année. On fait le chemin inverse. Quels joueurs vont avoir des attentes et ne seront pas en mesure de les remplir? J'ai hâte de t'écouter.
Ouais, toujours très intéressant. Le premier nom avec lequel je commence, et je pense pas que c'est une très, très grosse surprise, c'est Mikael Granlund, qui est un nouveau membre des Ducks d'Anaheim. Il a signé un contrat de 3 ans de 7 millions de dollars par saison. Je la comprends pas trop, je vais être honnête avec toi, là, du côté des Ducks, parce que je trouve que Granlund, c'est un peu un genre de Troy Terry, je veux dire, dans le sens qu'il est très, très bon au niveau fabricant de jeu, mais peut-être pas le plus gros gabarit. Et là, ben, t'en as un des deux qui va écoper. Je pense que Terry, c'est quelqu'un qui est très efficace chez les Ducks depuis plusieurs années, donc je pense que c'est Granlund qui va écoper. Et il faut que tu surveilles comment ça s'est toujours passé pour Mikael Granlund depuis qu'il est avec les Prédateurs de Nashville. Aussitôt qu'il y a un peu de compétition, qu'il y a un peu de joueurs qui peuvent être avantagés par rapport à Granlund, sa production offensive a tendance à baisser un petit peu. C'est normal, il y a peut-être un peu moins d'avantages numériques, il est moins placé dans des situations importantes. Je prends simplement l'an dernier, par exemple. Tu sais, ça se passait super bien avec les Sharks de San Jose, il a obtenu 45 points dans les 52 premiers matchs de la saison. Mais tu regardes les ailiers qu'il avait, c'était... Il y avait William Eklund, il y avait Tyler Toffoli, peut-être Will Smith, là. Il n'y avait pas de compétition, donc ça faisait en sorte que Granlund avait les grosses occasions, avait le gros temps de jeu, était en avantage numérique, et là, il produisait. C'est fait changer à Dallas, ça n'a pas été mauvais, mais 21 points, 31 matchs, tu vois, déjà une petite baisse de production, ce qui a donné 66 points en 83 matchs. Bon, ça a clairement été échangé lorsque à une équipe qui avait moins de matchs de disputer. Et là, tu regardes chez les Ducks, j'ai parlé de Troy Terry, mais t'as Frank Vatrano, t'as Cutter Gauthier, t'as Chris Kreider qui s'amène, t'as Alex Killorn, Et je regarde un peu tout ça. Moi, je pense que Joel Quenneville va être tenté de donner du temps de jeu à un Kreider, de le relancer, par exemple. Donc, j'ai de la difficulté à voir Granlund se retrouver au sein d'un trio important. Et l'histoire montre depuis, je dirais, un bon 6 ou 7 saisons, que lorsque Granlund n'est pas dans une occasion importante, sa production chute. Donc, il y a eu 66 points l'an dernier. Moi, je serais pas surpris qu'il se retrouve un petit peu plus vers 40 ou 45 points. Ah, je pense que ça peut être aussi drastique que ça, parce que c'est ça, il va tout simplement avoir moins d'occasions. C'est moindrement que tu vas vouloir aller marquer un but important, ben tu vas placer Terry ou tu vas placer Cutter Gauthier. Il sera jamais vraiment avantagé. C'est là que je la comprends moins, celle-là, chez les Ducks.
Ouais, ça va être un contrat qui va coûter très cher si jamais ça se réalise et qu'il n'obtient pas plus que 45 points l'année prochaine. Tu vas nous parler d'un joueur des Bruins qui a été quand même assez étonnant l'année passée avec une récolte de 33 buts.
Ouais, exactement, Morgan Geeky, et je pense que c'est assez facile de comprendre d'où vient sa production. C'est qu'étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de talent chez les Bruins de Boston, ben t'sais, il s'est retrouvé sur le premier trio avec les Elias Lindholm et avec surtout David Pastrnak. Ça l'a aidé à produire. Cependant, Morgan Geeky, je me suis amusé à regarder les statistiques un peu plus précisément. Il y a quand même des choses inquiétantes un petit peu qui font en sorte que, est-ce que c'était simplement une bonne saison? C'est sûr que l'aspect de jouer avec Pastrnak, donc moi personnellement, si j'avais un pool, peut-être que je le prendrais plus tard quand même. Mais a marqué 33 buts, 57 points, donc ça c'est très bien. Mais sa meilleure saison précédemment, et c'était encore avec les Bruins, c'était 39 points. C'était pas quelqu'un qui produisait beaucoup. C'est sûr que c'est un jeune qui est dans la fleur de l'âge. C'est sûr que, il est présentement dans ses meilleures années, ça aide. Mais moi, j'ai regardé, et ça souvent, quand tu parles de joueurs qui donc c'est ça, c'est simplement une bonne saison, et que là, par la suite, il redevient un peu à la normale. J'ai regardé son taux de réussite avec son tir à Morgan Geeky. Il a marqué 22% des... dans 22% des chances avec ses tirs. Il a été, si je prends dans toute la LNH, parmi ceux qui ont joué plus de 20 matchs, il a été cinquième, et là-dedans, là, il y a des joueurs qui ont peut-être disputé 21 ou 22 rencontres. Là, je pense à des Tyson Kozak, des Sam Colangelo et des Justin Kirkland. Le seul joueur établi qui a été plus prolifique au niveau de son tir qu'un Geeky, c'est Braden Point. Nommez-moi toutes les autres vedettes. Mais ça, souvent, ça fait en sorte que tu retombes sur tes pattes. Je regarde ses saisons précédentes à Geeky, là, 2023-2024, c'était 13,1% de taux de réussite. Et en 2022-2023, c'était 11,1%. Donc, tu sais, 22%, on est en droit de se dire que c'était peut-être un peu anormal. S'il retombe un petit peu dans les eaux de justement, disons, on est optimiste qu'on lui donne 15%, là. Mais ça fait quand même en sorte qu'il marque pas 33 buts. Ça fait quand même en sorte qu'il se retrouve peut-être avec, je sais pas, 20, 20, 21, 22. Et là, ben, c'est pas 57 points qu'il va obtenir. C'est peut-être un 40, un 45. Je pense qu'il va être avantagé quand même parce que il y a pas une tonne d'options à l'aile d'un Pastrnak. Mais j'ai de la difficulté à le voir poursuivre une saison comme ça, surtout que Geeky, c'est pas le plus grand patineur. Non.
Ouais, tu sais, je parlerais de comparer les joueurs, là, vraiment pas. Là. Je veux juste comparer les situations. On l'a vu l'année dernière à Montréal avec Jake Evans. Il y a un pourcentage de réussite énorme sur ses lancers. À un moment donné, ça te rattrape. Ça. Tu peux pas garder cette cadence-là trop longtemps. Est-ce que Geeky va être en mesure de le faire l'année prochaine? Ben, ça va être intéressant à surveiller. Un autre joueur, Marty.
Ouais, celle-là, c'est peut-être la moins évidente. C'est que dans le fond, je prends le pari que ce joueur-là ne sera pas. Pas pour l'équipe avec laquelle il est en ce moment. C'est Rickard Rakell, donc l'ailier des Penguins de Pittsburgh. Et c'est ça, c'est qu'on le voit tellement dans toutes sortes de rumeurs, on voit toutes sortes de choses par rapport à Carl Dubas, qui clairement veut mettre son équipe dans le derby Gavin McKenna pour le repêchage 2026. Et je pense que si du moment que Rakell va être échangé, c'est une situation qui est moins profitable. C'est quand même quelqu'un qui a 32 ans, donc et justement dans la période où là, à un moment donné, tu peux avoir droit à une baisse de production, quand même obtenu 70 points la saison dernière, et ça s'explique. Tu sais, un gars comme Jake Denzel est parti, c'est clairement lui qui a pris le rôle, mais en même temps, tu regardes la saison précédente, 37 points. Moi, je pense que Rickard Rakell, c'est pas le gars de 70 points, et c'est pas le gars de 37 non plus. Mais tu sais, si tu l'échanges, par exemple, je dis n'importe quoi, au Maple Leafs de Toronto, c'est sûr qu'il va produire quand même. C'est sûr que je pense que c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher peut-être une cinquantaine de points. Mais supposons qu'il est derrière un William Nylander ou un Matthew Nice, des gars comme ça, ben automatiquement, je pense que ça fait en sorte que Rakell, sa production, va chuter peut-être un petit peu. Là, évidemment, s'il demeure à Pittsburgh, ça change un peu la donne. C'est peut-être pas un joueur que je garderais dans ce bloc-là. Mais c'est ça, moi j'ai vraiment l'impression que Raquel, il y a énormément de rumeurs en ce moment. Et j'ai l'impression que dans les entours du camp d'entraînement, là, peut-être qu'un Dubas soit va baisser son offre, ou va tout simplement, à un moment donné, trouver preneur. Et c'est là que Raquel, je pense que sa production va baisser parce qu'il ne sera plus avec un Sidney Crosby. Disons que ça a été
le c'est sûr que ça l'aide. Puis clairement, les Penguins sont en mode reconstruction. Là. Ça, c'est une évidence. Moi aussi, je ne serais pas surpris que Raquel quitte parce que si tu veux tirer d'une valeur importante, il vient de faire 35 buts. Là. Fait que c'est sûr et certain qu'il a quand même quelque chose d'intéressant à offrir malgré son contrat. Beaucoup d'attaquants jusqu'à maintenant. Aurais-tu un défenseur pour nous, Marty?
Ouais, on va y aller avec Cam Fowler du côté des Blues de Saint-Louis. C'est un cas intéressant, Cam Fowler, parce que, rappelle-toi, l'an dernier, il s'est amené les Ducks d'Anaheim. C'était compliqué avant qu'il s'amène. Il avait obtenu seulement 4 aides en 17 rencontres. Et là, il s'amène avec les Blues et se réveille complètement. C'est sûr que c'est une équipe qui avait plus d'attentes, donc c'est peut-être un peu plus facile de se motiver et d'aller chercher 36 points, 51 rencontres avec les Blues. Ça a donné 40 en 68 pour toute la campagne. Cependant, Cam Fowler, premièrement, il va avoir 34 ans au mois de décembre. Donc lui aussi, c'est quelqu'un qui ne rajeunit pas. C'est pas quelqu'un du côté d'Anaheim, du moins, qui avait nécessairement une grosse progression. Et ce qui est inquiétant un peu dans le cas de Fowler, c'est de regarder qu'est-ce qu'il a autour de lui. Tu sais, un gars comme Philippe Broberg l'an dernier, souviens-toi des autres, il a eu un excellent début de saison, c'était mis à produire. Broberg a raté environ un mois. Bon, c'est il est quand même revenu avant que Fowler soit acquis. Tout ça, mais on dirait que là, par la suite, Fowler a pris un peu plus de responsabilité en attaque. Il a été capable de produire un petit peu plus, notamment avec un Justin Falk. Mais tu sais, c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'un Broberg va prendre un an de plus en expérience. On va le placer dans des situations un peu plus importantes du côté de Jim Montgomery. Et tu regardes les éléments autour aussi, un Justin Falk ne rajeunit pas, donc je pense que lui, peut-être que sa production va chuter légèrement. Ça peut affecter un gars comme Fowler. Un gars comme, c'est un peu niaiseux à dire, mais un gars comme Logan Mailloux, il faut le considérer aussi. Je pense que c'est un gars qui peut placer au sein d'une deuxième vague en avantage numérique, décocher des tirs, vraiment être menaçant avec son tir sur réception. Et c'est là, je pense qu'un gars comme Fowler, ça peut l'affecter. Donc, tu sais, on parle de 40 points, 68 matchs l'an dernier. Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait chuter un peu plus vers les 30? Je sais que ça semble pas beaucoup, mais à un moment donné, pour un défenseur, c'est quand même marqué, là. Donc, on dirait que je m'attends à une baisse de production dans le cas de Fowler.
Ouais, c'est intéressant. C'est pas un mauvais choix. Cam Fowler, et finalement, il nous en reste un à faire avant la pause. Marty, on va aller du côté du Kraken de Seattle.
Ouais, donc, du côté du Kraken, je suis allé avec Chandler Stephenson, un gars dont j'ai jamais vraiment aimé le contrat qu'on a donné.
Épouvantable.
C'est ça. Puis la raison, c'est que justement, ça pouvait très mal se transmettre. Premièrement, parce que Chandler Stephenson, j'ai toujours trouvé que c'est quelqu'un qui est en mesure de produire avec les Golden Knights de Vegas parce qu'il n'y avait pas énormément d'options. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait William Carlson. Puis là, à un moment donné, il y a eu baisse de production un peu. On place Stephenson un peu par défaut sur le premier trio. Là, il se met à jouer avec Marchstone et compagnie. Puis là, paf, il se met à produire un petit peu. Là, Seattle, c'est pas la même situation. T'as pas de Markstone, t'as des bons joueurs, mais t'as pas vraiment quelqu'un pour t'aider à produire. Il a 31 ans, lui aussi va être sur sa pente descendante, et moi où je vais lui mettre une baisse de production, puis le joueur que je vais nommer, j'aurais pu le placer dans mes joueurs qui vont avoir une explosion aussi, mais on en a gardé 5, donc il faut faire des choix. C'est Shane Wright. Moi, j'ai l'impression que Shane Wright va avoir, tu sais, obtenu 44 points l'an dernier. Je pense qu'il va connaître une excellente production. C'est quelqu'un qui va être sur le deuxième et peut-être même le premier, parce que Matthew Beniers, c'est pas le gars qui a eu les deux meilleures dernières saisons, disons. J'ai l'impression que Wright, donc, s'il est en mesure de produire, qu'il est capable d'aller chercher, disons, un 65, 70 points, ben là, ça fait en sorte que c'est Stephenson qui a moins d'avantages numériques. C'est Stephenson qui a moins de temps de jeu, qui joue avec des joueurs moins dominants. Je comprends qu'à Seattle, on a un peu de profondeur, donc potentiellement pourrait jouer avec un Mason Marchment ou un Eli Tolvanen, des gars comme ça, mais ça va quand même faire en sorte que sa production va baisser. Stephenson, c'est quelqu'un qui a obtenu 51 points l'an dernier. Moi, je pense qu'il pourrait peut-être se diriger un peu plus vers le 35, donc des productions d'un joueur quand même de soutien, mais clairement pas un gars de Poudre, clairement pas un gars qui mérite le salaire qu'il gagne en ce moment.
Ouais, 6,25 millions pour encore 6 ans. C'est ça qui attend le Kraken de Seattle avec une clause complète de non-mouvement pour Chandler Stephenson. Sur la messagerie texte, Marty, ton travail est souligné. Beaucoup de travail et de devoirs de fait à ce niveau-là. Donc, chapeau, mon chum. Puis on se reparle demain?
Oui, on se reparle demain, certains des autres. Une dernière pour toi, c'est très, 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 très hâte de participer à ça avec toi.
Yes, on se reparle demain. Merci, Marty.
Yes, merci beaucoup, Dezo.